Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Difficile de vous donner envie d'écouter cette histoire sans vous donner la fin. Il s'agit de l'enquête sur le meurtre en janvier 2012 à Dijon de Marion Bouchard. Celui qui l'a tué a fait plus que la tuer. Il l'a démembré à la scie. Et jusqu'au bout, il va prétendre qu'il l'aimait. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Au tout début de cette histoire, il y a une lettre. Une lettre envoyée par un garçon de 25 ans qui s'appelle Fabien à ses beaux-parents, les parents de sa copine Marion. « Ne vous inquiétez pas si vous ne parvenez pas à nous joindre, Marion et moi, c'est normal, nos deux portables sont capotes. » Il écrit que c'est le chat qui a boulotté les deux chargeurs. Enfoiré de chat. « Bon, se disent les parents de Marion, on va attendre qu'il rachète des chargeurs. » Tout ça se passe fin janvier 2012 à Dijon. Et les jours passent, mais Marion ne rappelle pas sa mère et son beau-père. « C'est quand même très bizarre, tu trouves pas ?» Un chargeur de portable, quand même. Ça se remplace facilement. Comment ça se fait que Marion ne nous rappelle pas et qu'on n'arrive pas à la joindre, ni elle ni Fabien? Et ça dure comme ça, 8 jours de plus. Et puis le 8 février 2012, sans nouvelles de leur fille depuis 2 semaines, les parents de Marion, Marion Bouchard, décident d'aller au commissariat de Dijon pour déclarer sa disparition.
Et elle fait quoi dans la vie, votre fille?
Elle est serveuse.
Et elle travaille où?
Elle travaille pas, là. Elle cherche du travail, justement.
Et depuis quand est-ce que vous n'avez pas de nouvelles d'elle et de son petit ami
Fabien, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben, depuis le 26 janvier, donc ça fait 15 jours, depuis que Fabien nous a envoyé cette lettre pour nous dire que le chat avait mangé les chargeurs de leur téléphone. C'est pour ça qu'au début, on s'est pas inquiété, mais là, quand même, 15 jours, vous accepteriez d'aller chez eux? Nous, on y est allés, les volets sont fermés. On a sonné, personne ne répond. On est allés voir les voisins, ils disent qu'ils les ont pas vus depuis un bout de temps.
D'accord, je vous promets, on va aller voir.
Et les policiers tiennent leur promesse, ils y vont. Un appartement dans une résidence de la périphérie de Dijon. Quand ils arrivent sur place, ils sonnent, et surprise, la porte s'ouvre, et apparaît un type les cheveux en pétard qui a l'air de sortir tout droit du plumard. Ça alors? Les parents ont dit que l'appartement était vide, qu'ils avaient sonné plusieurs fois et qu'il n'y avait personne.
Bonjour monsieur.
Police nationale, je peux vous demander qui vous êtes?
Ben oui, je suis Fabien. J'habite là avec ma compagne, Marion. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs?
Eh bien, nous sommes là parce qu'on nous a signalé justement la disparition de votre compagne, monsieur Marion Bouchard. C'est ses parents qui s'inquiètent.
Marion? Ah, mais elle n'est pas là à cette heure-ci, Marion. Mais elle est au travail, là.
Au travail, vous dites? Donc elle n'a pas disparu?
Oh mais non, pas du tout. Elle fait des ménages en ce moment. Je sais pas, elle devrait être là à la fin de la journée, quoi. Je pense qu'elle va aller faire des courses après le boulot, et puis elle arrive.
Bien. D'accord, monsieur. On peut jeter un coup d'œil à votre appartement? Vous comprenez, on nous a signalé sa disparition, c'est pour sa famille, quoi.
Oui, pas de souci. Je vous en prie, entrez.
Et donc, les policiers pénètrent dans l'appartement. Tout est en ordre, et même très en ordre. La vaisselle est faite, le lit aussi. Et le chat s'est enfoiré, ronronne sur le canapé. Et il y a un chien aussi, couché dans son panier. Rien d'anormal, quoi. Les policiers ont conclu que les parents ont tort de s'inquiéter.
Et il les appelle en rentrant au commissariat.
Ouais, on a vu le compagnon de votre fille.
Vous l'avez vu ?
Oui, il était chez lui. Et il nous a dit que votre fille était au travail.
Au travail ? Mais Marion, elle cherche un emploi. Elle n'a pas de travail en ce moment.
Eh ben si. Écoutez, apparemment, elle fait des ménages.
Des ménages ? Mais enfin, Marion a toujours travaillé dans la restauration. Je suis un peu surprise. En plus, elle ne nous en a pas parlé. Et lui, Fabien, il est là. Vous l'avez vu dans l'appartement ?
Oui. Comme je vous l'ai déjà dit.
On y est allé ce matin, il n'y avait personne. Bon, écoutez, je vous remercie, monsieur.
Quand la mère raccroche, elle est très troublée. Et elle décide d'aller sur place. Ça l'intrigue que Fabien soit là, alors qu'il n'était pas là ce matin. Elle arrive en bas de l'immeuble avec son compagnon.
Allô, bonjour.
Oui, Fabien. C'est la maman de Marion, là. Tu peux nous ouvrir ?
Attendez, je descends.
Et la mère voit arriver Fabien dans le hall de l'immeuble.
Excuse-moi, Fabien, mais je suis un peu inquiète. J'ai pas de nouvelles de Marion depuis 2 semaines. C'est pour ça ?
Ouais, je sais, ouais. Des policiers sont venus ce matin.
Elle est au travail, là. Elle va pas tarder à rentrer. Vous voulez monter boire un café en l'attendant ? Non, je te remercie. Tu lui dis de m'appeler quand elle rentre ?
Oui, bien sûr. Comptez sur moi.
Bonne soirée.
Mais la mère ne rentre pas chez elle. Elle garde sa voiture juste en face de l'immeuble et avec son compagnon, elle attend. Logiquement, Marion doit rentrer chez elle en bus.
C'est quand même bizarre qu'elle ait trouvé du travail et qu'elle m'en ait pas parlé.
Et les heures passent. Et la nuit tombe. Et toujours pas de Marion.
C'est vraiment pas normal. On devrait remonter à l'appartement et demander à Fabien qu'est-ce qui se passe.
Alors il monte. Il sonne, il toque. Aucune réponse. Et pas une lumière à l'intérieur.
Il n'est pas là. Je comprends pas, on est resté en bas de l'immeuble toute la soirée.
On l'a pas vu sortir.
D'accord. Il devait être avec le chien en plus. C'est con, on n'a pas dû le voir. Ou alors il y a une autre sortie.
Il y a effectivement une autre sortie par le parking.
Tu vois, moi je me dis qu'il n'a pas voulu nous voir, Fabien. Et s'il n'a pas voulu nous voir, c'est qu'il y a un problème. Hein ?
Tu penses à quoi, ma chérie ?
Je sais pas, qu'il la séquestre quelque part. Il faut qu'on retourne voir la police. Il y a un truc qui va pas.
Voilà donc la mère de Marion de retour au commissariat.
Son copain à Marion, Fabien, finalement on l'a vu, nous aussi, chez eux. Il nous a dit à nous aussi que Marion allait rentrer du travail. Alors on l'a attendue en bas de l'immeuble pendant des heures. Et elle n'est pas rentrée. Et lui, pendant ce temps-là, il a disparu.
Disparu ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Qui s'est barré. On était en bas de l'immeuble, on l'a pas vu sortir. Il est forcément passé par le parking pour pas qu'on le voie. Il faut que vous nous croyiez. Il s'est passé quelque chose de grave.
La mère a convaincu les policiers. Et après ça, ça va vite. Le lendemain, le procureur ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Hypothèse basse. Et une fois nommé, le juge d'instruction ordonne une perquisition de l'appartement de Marion et de Fabien. Les policiers se font ouvrir la porte et ils balaient la grande pièce du regard.
Regarde-moi ça. Les papiers d'identité de la miss. Et là, c'est sa carte bancaire. Et ça doit être son portable. Si on avait un doute, hein. Elle n'est pas partie d'ici d'elle-même, hein. Une gamine d'aujourd'hui, ça part pas sans son portable. Hein.
Et ensuite, ils attaquent la fouille.
Bon, j'ai fait le tour du salon. C'est nickel, pas la moindre trace de violence. Strictement rien à se mettre sous la dent. Et toi ?
Bah écoute, moi j'ai fouillé la chambre, les chiottes, la salle de bain. Il n'y a rien non plus.
Pendant ce temps-là, au commissariat, les flics tentent de tracer le téléphone portable de Fabien. Et chou blanc, il est éteint. Ce qui est déjà le signe d'un type qui ne veut pas qu'on le retrouve.
Dites-moi, capitaine, quand vous avez perquisitionné l'appartement du couple, là, vous avez pensé à fouiller la cave ?
Non. On n'y a pas pensé, il y a une cave ?
Je sais pas, mais quand même, renseignez-vous, hein.
Et pend le coup de baguette du juge sur les doigts du policier. Aïe ! Ça fait mal, hein ? Et ça fait d'autant plus mal qu'il y a une cave. C'est ballot qu'il l'ait oublié la première fois. Vraiment ballot. Dans la cave, il y a un caddie de supermarché et il y a un sac de sport. Les policiers ouvrent le sac. Une scie, genre scie à placo.
Et regarde sur la lame, c'est pas du sang, ça ?
Ça y ressemble, en tout cas. Non, non, il ne l'a pas découpé à la scie.
On ne va pas tarder à avoir les résultats du labo. Si c'est bien du sang, ça ne s'est pas passé à la cave. Il n'y a pas de traces de sang ni sur les murs ni sur le sol. Alors, est-ce que ça s'est passé là-haut, dans l'appartement si propre et bien rangé? La police scientifique passe à l'action avec son incontournable Blue Star, le produit qui révèle les traces de sang. Et bilan,
on a des petites traces de sang, hein. Mais vraiment petites, hein. C'est comme si on avait nettoyé, tu vois, la serpillière, mais pas totalement à fond, quoi. On est d'accord, donc il y a des traces de sang dans toutes les pièces. Hein. On en a dans le salon, on en a dans la chambre, on en a dans la salle de bain, on en a aussi dans le panier du chien. Et si on ajoute la scie à la cave, ça sent pas bon, les amis. Ça sent pas bon du tout.
Il faut retrouver Fabien le plus vite possible. Je vous l'ai dit, son téléphone est éteint. Ça fait 8 jours qu'il est en fuite et il n'a pas non plus utilisé sa carte de crédit.
Bon, le gars, il est saisonnier, hein, d'accord ? Si ça se trouve, aujourd'hui, il est loin de Dijon. On sait qu'il n'a pas utilisé sa carte de crédit. Mettons qu'il ait pris un train. On peut penser que puisqu'il n'avait pas payé son billet, il a pris une prune. Faut voir avec la SNCF si elle peut pas nous aider.
Dans le fichier des amendes de la SNCF, il n'y a pas de trace d'un Fabien Souvigné, de 24 ans. Il était temps que je vous donne son nom.
C'était le 10 février, vous dites ?
Ouais, c'est ça, oui, aux alentours du 10 février.
Parce qu'on a... On a bien un Fabien qui a été verbalisé ce jour-là, à 15h30. 38, mais c'est pas le même nom, hein. C'est pas Fabien Souvigné, mais en revanche c'est le même âge. De toute façon, vous devez savoir que chez nous c'est déclaratif, hein, c'est-à-dire que les contrevenants donnent le nom qu'ils veulent, nous on vérifie pas. Et alors ça va peut-être vous intéresser, la même personne, hein, a pris une deuxième contravention parce que elle voyageait avec son chien sans billet.
Ça colle. Le jour, l'heure, le prénom et le clébard. Ça colle. Et quelle était la destination du train, monsieur ?
Eh bien, c'était le Dijon-Paris.
Il vous faut maintenant une preuve que le Fabien du train est bien Fabien Souvigné. La voilà. Quand le contrôleur du train lui a demandé son nom,
Il aurait pu inventer. Il aurait pu dire « je m'appelle machin » ou « Tartempion ». Il a donné le nom de jeune fille de sa mère, le couillon. C'est lui, à 100%. J'ai une idée. Il a un chien. Il faut qu'on récupère le numéro de sa puce électronique. C'est obligatoire, hein, je crois, maintenant. On envoie le numéro à tous les vétos, hein, à tous les refuges aussi de la région parisienne. Si le chien est malade, il le fera soigner. Hein. Tout le monde nous a dit qu'il adore son chien. Mais par ailleurs, le gars est en cavale, donc il va peut-être aussi chercher à se débarrasser de son chien dans un chenil. Donc, ok, on cherche le numéro de la puce. Facile. Le numéro est sur le carnet de santé du Kleps et le carnet dans l'appartement. Et donc, les policiers lancent un avis de recherche du chien. Ça n'arrive pas tous les jours, ça, je vous le dis. Et maintenant, eh ben, il n'y a plus qu'à attendre. Quelques jours plus tard, un jeune homme se présente au refuge de la SPA de Gennevilliers, l'un des plus gros refuges de la région parisienne. Il ne vient pas abandonner son chien, il le cherche.
Voilà, je vis dans la rue depuis 3 semaines. Et mon chien, c'est tout ce que j'ai. Et je sais pas, il s'est échappé. On vous l'aurait pas amené par hasard. Vous n'avez pas fait de déclaration de perte? Non. Eh ben, on va commencer par ça. Vous avez une pièce d'identité? Oui. Oui, la voilà.
La dame rentre le nom dans sa bécane. Souvignier Fabien. Et ça clignote. Enfin, ça dit qu'il y a un problème. Et ça décrit la démarche à suivre. Ne pas l'alerter. Et prévenir discrètement la police. Et le faire patienter sur place autant que possible.
J'ai l'ordinateur qui rame, je sais pas pourquoi. Le mieux, c'est que je le relance. Ça va pas durer trop longtemps.
Et la suite arrive au bout de la rue. Des flics partout. Lui, à l'intérieur, dans le bureau de chenil. Il a compris. Il tente de se tirer, le diable. Mais il se fait coincer. C'est fini, mon gars. Maintenant, il va falloir t'expliquer. La scie, le sang, il va falloir raconter. Et voilà Fabien Souvignier en garde à vue à Dijon. Il ne s'attendait absolument pas à se faire coffrer comme ça. Il vient de faire 3 semaines de cavale. Il est épuisé. Et il se couche tout de suite.
Je voulais pas la tuer. Je l'aimais. Je l'aime toujours. Malgré ce que je lui ai fait.
Vous n'avez pas voulu la tuer, dites-vous. Racontez un peu.
Je sais pas par où commencer. Oui, d'abord, j'avoue, je picole pas mal. Et un matin, elle m'a trouvé en train de décaniller une canette au réveil. Et là, elle m'a giflé. C'est elle qui a commencé, hein. Attention, elle était violente, Marion. Et moi, je pouvais pas laisser passer ça. Alors le soir, on a parlé, ça a dégénéré, elle est allée chercher un couteau dans la cuisine, elle me menaçait, et moi j'ai mal réagi, voilà tout, ça m'excuse pas, je sais.
Comment est-ce que vous l'avez tué?
Eh bien, j'ai serré le cou.
Et le corps, il est où, monsieur?
Le corps, je l'ai découpé en 3 morceaux. Et j'ai mis chaque morceau dans un endroit différent de Dijon.
Et vous les avez transportés comment?
Ben, avec un caddie de supermarché. J'avais pas le choix, j'ai pas de permis.
Vous êtes capable de nous dire où vous avez déposé les morceaux du corps?
Oui.
Monsieur Souvignier, vous pouvez me raconter comment est-ce que vous avez découpé le corps?
Avec une scie.
Celle qu'on a retrouvée à la cave?
Oui. C'était horrible à faire. Moi, je pensais que ça serait facile. Mais non, quand j'ai commencé, ça m'a donné la nausée. Alors j'ai vomi. Et puis, c'était long.
Long comment, monsieur ?
Ben, la découpe d'une jambe, par exemple, ça a pris une demi-heure.
À quel moment se passe la découpe du corps ?
Pas tout de suite. Au début, je l'ai gardé dans l'appartement.
Combien de temps ?
Oh, une semaine.
Et c'est au bout de 8 jours que vous décidez de le démembrer.
Voilà. J'aurais dû appeler la police juste après, puisque j'avais pas voulu la tuer, puisque c'était un accident, puisque c'est elle qui m'avait agressé au début. J'aurais pas dû.
Il a avoué. Ça manque de détails, mais il a avoué. Il est épuisé. Retour en cellule de garde à vue. Et là, les policiers de Dijon vont voir les parents.
Bon, madame, il a avoué. Il l'a étranglé. Et il a démembré son corps.
Mais pourquoi ? Pourquoi il l'a tué ?
Il dit qu'il n'a fait que se défendre, madame. Et que votre fille l'a agressé avec un couteau. Ils disent tout ça, vous savez.
Et le corps ? Il a dit où il a mis le corps ?
Pas encore, mais il va nous le dire.
Bien, monsieur, suivez-moi, on va reprendre l'interrogatoire.
Lors de ce deuxième interrogatoire, Fabien Sauvigné sert une version beaucoup plus détaillée que ses aveux initiaux. Mais toujours à sa décharge.
Je suis sorti promener le chien, comme tous les soirs. Et quand je suis rentré, elle m'a dit, t'es sorti longtemps, je suis sûr que t'es allé voir une fille, t'as une maîtresse, j'en suis sûr. Et on s'est pris la tête pendant, je sais pas moi, 5-10 minutes à nous insulter. Elle m'a traité de connard. Et là, elle est partie dans la cuisine. Et elle est revenue avec un couteau. Moi, j'ai flippé. Et c'est là que je l'ai attrapé. Et que je l'ai étranglé. D'abord, j'ai serré moyen, au niveau de la gorge. Et puis, de plus en plus fort. Et là, elle a lâché le couteau. Et puis, j'ai vu du sang qui coulait de sa bouche. Et quand j'ai lâché, elle est tombée par terre.
Est-ce que vous pouvez me dire précisément où vous avez placé les morceaux du corps, monsieur ?
Oui. Le tronc, je l'ai mis dans un terrain vague. Et les jambes et les bras dans deux parcs à Dijon.
Est-ce que vous pouvez m'indiquer sur cette carte, par exemple ? Approchez-vous.
Le tronc, il est là. Et le reste, c'est ici et ici.
Et il n'a pas menti. Les policiers retrouvent les 3 morceaux du corps là où il l'a dit. À l'issue de 2 jours de garde à vue, Fabien Sauvigné est présenté au juge d'instruction qui le met en examen pour meurtre et dégradation de cadavre.
À l'écouter, Marion Bouchard aurait une responsabilité dans ce qui s'est passé.
Classique. Sauf que la mère et le beau-père de Marion racontent un épisode très instructif sur le bonhomme. Ça s'est passé 15 jours avant le meurtre. Les deux, Fabien et Marion, travaillaient comme saisonniers dans la station de ski des Deux Alpes.
Voilà. La police de la station nous a appelés. Et ils nous ont dit que Marion avait été frappée par Fabien. Et qu'il l'avait bien amoché. Alors mon mari a pris sa voiture, il a roulé toute la nuit. Quand il est arrivé là-bas, effectivement, Il a vu qu'il l'avait battue.
Et elle vous a dit ce qui s'était passé, vous, monsieur ? Bah, elle a cherché à minimiser, quoi. Elle m'a dit que c'était une simple dispute. Moi, je lui ai dit qu'il fallait porter plainte, mais... Elle a pas voulu, quoi. Et voilà. 15 jours après, il l'a tuée. Intéressant aussi, le témoignage d'amis de Marion. Bah, un soir, juste après qu'on ait plus de nouvelles de Marion, on a dîné au restaurant avec Fabien. Et on lui a demandé où était Marion. Et là, il nous a dit qu'il s'était disputé et que Marion, elle avait pris un peu de champ et qu'elle était partie chez sa mère. Et il s'est comporté comment ce soir-là ? Oh ben normal, quoi. On a rigolé. Il a raconté des blagues, normal. On pouvait pas imaginer à ce moment-là qu'il avait le cadavre de Marion chez lui. Hein. D'autres amis racontent un épisode qui date de l'été dernier.
Moi, j'avais remarqué que Marion, elle se mettait jamais bras nus. Elle avait toujours un gilet sur elle. Et puis, elle enlevait jamais ses lunettes de soleil aussi. Et maintenant, avec ce qui s'est passé, ben, moi, je pense qu'il l'a battue, hein, à l'époque. Et qu'elle a fait ça, ben, pour cacher ses bleus. Pour pas qu'on le sache, quoi.
Le juge d'instruction interroge Fabien Souvigné à plusieurs reprises sur ses violences antérieures au meurtre.
Vous savez, normalement, je suis pas violent. C'est l'alcool qui me rend comme ça. C'est toujours à cause de l'alcool qu'on se disputait avec Marion. Mais en même temps, c'est à cause d'elle que je buvais. Elle était jalouse. Chez elle, c'était maladif. Moi, si je buvais, ben c'est parce qu'elle était devenue insupportable.
C'est pas de sa faute à lui. C'est de sa faute à elle. Indécrottable. Le procès de Fabien Souvigné devant la cour d'assises de Dijon s'ouvre en octobre 2013. Sa ligne de défense n'a pas bougé.
On s'aimait beaucoup. Il y avait beaucoup d'engueulades à cause de la jalousie, quoi. Ce soir-là, on s'est disputé. Elle me criait dessus. Elle m'insultait. Je voulais que ça s'arrête. Alors je l'ai étranglée. En fait, je voulais juste qu'elle se taise.
Mais alors, monsieur Souvigné, pourquoi avoir conservé le corps une semaine et l'avoir ensuite découpé à la scie ?
Bah, la peur ? La peur de décevoir beaucoup de gens ? Et aussi vouloir laisser de l'espoir à la famille de Marion ? Je pensais que si personne ne savait ce qui s'était passé... Ça serait moins douloureux. C'était complètement débile, je sais.
L'avocat général lui demande.
Vous êtes violent, monsieur Souvigné.
À jeun, non.
L'enquête de personnalité révèle qu'il boit depuis l'âge de 17 ans. Mais l'expertise psychiatrique semble dire que ça n'est pas qu'un problème d'alcool.
C'est un personnage froid, indifférent, qui a réalisé un acte sadique, barbare, et qui ne fait état d'aucune culpabilité. Et j'ajoute qu'il existe des risques de récidive en cas de reprise d'alcool ou de drogue. Ces produits sont pour lui comme des facilitateurs.
La fin du procès approche et Fabien Souvigné fait une déclaration qui désarçonne jusqu'à son avocat.
Pour ce que j'ai fait à Marion et pour la souffrance que je fais subir à sa famille et pour que plus jamais
je puisse faire de mal à quelqu'un, je demande à ce que la cour me condamne à perpétuité.
Réaction de l'avocate de la famille de Marion.
Oui, d'accord, ce sont des déclarations qui sont peut-être faciles à ce moment du procès.
Dans ce dossier, Fabien Souvigné est poursuivi pour meurtre aggravé. Aggravé par le démembrement du cadavre. Dès lors, il risque perpétuité. L'avocat général ne va pas jusque-là.
Chaque année en France, voyez-vous, 122 femmes meurent sous les coups de leurs compagnons. Un décès tous les 3 jours. Marion était l'une d'elles. Je vous demande une peine qui ne saurait être inférieure à 30 années de réclusion criminelle. Je vous remercie.
Mais au final, les jurés se montrent beaucoup plus cléments que l'avocat général. Fabien Souvigné est condamné à 22 ans de réclusion criminelle sans peine de sûreté. À l'annonce du verdict, un brouhaha indigné s'élève de la salle.
Vous avez aimé cette histoire ? Christophe Ondelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.